Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Anne Contenet.
Bienvenue sur Accent d'Europe. Les retentissements de l'attentat de Moscou sur la situation en Europe. La France placée en état d'urgence attentat, le plus haut niveau de sécurité et les services de sécurité chargés d'identifier les personnes à risque.
Une démarche qui s'inscrit aussi dans l'encadrement des imams pour lutter contre les discours les plus radicaux.
Au Royaume-Uni, justement, le gouvernement vient de prendre plusieurs mesures pour mieux définir la notion d'extrémisme et empêcher la venue sur le territoire de prédicateurs dangereux à Londres, Marie Billon.
La question se posait déjà au début des années 2000, avant les attentats dans le métro en 2005 et ceux de 2017. Comment contrôler les prêcheurs étrangers venant au Royaume-Uni tout en respectant la liberté d'expression? Le gouvernement britannique a décidé de redéfinir les contours en ce début de 2024. Une nouvelle définition de l'extrémisme dans l'espace public a été dévoilée à la mi-mars. L'extrémisme est la promotion de la violence, la haine et l'intolérance. Et quelques jours plus tôt, Londres avait annoncé que le gouvernement comptait désormais identifier les prêcheurs extrémistes avant leur arrivée sur le territoire britannique pour les empêcher d'y entrer. Certains pays d'origine seront particulièrement scrutés, Afghanistan, Pakistan et Indonésie. Les personnes ciblées seront placées sur une liste rouge pour être plus aisément identifiées si elles tentent de pénétrer le territoire. Il y a 5 ans, le gouvernement a aussi introduit un programme de formation pour les représentants religieux, pour toutes les confessions. Sur la base du volontariat, les religieux peuvent assister à un séminaire qui les met à jour sur les lois et principes britanniques concernant les violences familiales, les mariages forcés, les mutilations génitales notamment, mais aussi la définition du mariage, de l'égalité dans la société britannique, ainsi que les valeurs communes. Mais la question des prêcheurs extrémistes qui sont déjà dans le pays se pose aussi. Les expulsions sont rares et difficiles à obtenir auprès de la justice pour le ministère de l'Intérieur. Le journal Daily Telegraph estime que le Royaume-Uni devrait adopter un système plus efficace, comme en France, peut-on lire. Un pays qui n'a pas besoin de quitter l'Union européenne pour mieux protéger ses citoyens, estime le journal de droite.
La France a mis fin en janvier aux imams détachés, envoyés et rémunérés par des pays étrangers. Même démarche annoncée pour l'avenir en Allemagne, qui voudrait limiter la présence de ces imams qui, pour la plupart, viennent de Turquie. Pour les remplacer, le premier centre allemand de formation pour les imams a vu le jour en 2021 à Osnabrück, en Basse-Saxe. Mais tout n'est pas pour autant réglé, car la question de leur rémunération reste en suspens. C'est le reportage de Wilhelm Munoz-Boileau.
Dans une grande pièce sobrement aménagée en salle de classe, une trentaine d'étudiants de tous âges, une majorité d'hommes et quelques femmes, font face à Murat Karachan. Docteur en théologie, il est chargé de l'enseignement de la prédication à l'Islam College Deutschland d'Osnabrück.
Aujourd'hui, j'aborde la question centrale de l'auditoire. Mon objectif, c'est que les étudiants comprennent à qui ils s'adressent et qu'ils acquièrent une méthode pour aborder des sujets qu'on aborde pas dans les pays arabes, mais qui intéressent les membres de notre communauté en Allemagne.
Comme tous ses collègues, Murat Karachan dispense ses cours exclusivement en allemand. Tous diplômés d'une licence en théologie islamique, les étudiants qui suivent cette formation de 2 ans se destinent à être enseignants en religion, aumôniers ou imams en Allemagne. Et ils apprécient le contenu des cours qui diffère de l'enseignement religieux classique, comme en témoigne Yasser Ahmad, un Pakistanais de 41 ans.
Ici, on parle de sujets que je n'ai jamais pu évoquer avec un imam, comme la musique, l'alcool, la drogue, Netflix. Pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est important de savoir est-ce que j'ai le droit d'écouter cette musique ? Est-ce que j'ai le droit de sortir avec ma copine ? Pourquoi je dois prier comme ça ? Je trouve ça super qu'on apprenne à répondre à ce genre de questions sans se borner à ce qu'on trouve dans le Coran.
Yasser Ahmad est éducateur de formation, mais comme une grande partie de ses camarades de promotion, il officie déjà en tant qu'imam sur son temps libre, une activité qu'il exerce bénévolement car sa mosquée n'a pas les moyens de lui verser un salaire. Un problème auquel sont confrontées de nombreuses mosquées en Allemagne, comme l'explique Rauf Celan. Il est titulaire de la chaire de recherche sur l'islam contemporain à l'Institut de sociologie islamique d'Osnabrück.
Les mosquées demandent à leurs fidèles une cotisation qui leur permet tout juste d'entretenir les murs, de payer le loyer et d'éponger les dettes. Il ne reste donc pas grand-chose pour payer les imams. Or, ça n'a aucun sens d'avoir des imams bien formés s'ils ne peuvent pas être payés correctement derrière.
Selon Rauf Celan, le manque de financement des imams est le principal obstacle à un islam indépendant des influences étrangères en Allemagne. En effet, à ce jour, les seules mosquées qui peuvent garantir un salaire fixe à leurs imams sont celles gérées par des organisations musulmanes turques comme Miligurus et Ditib. Or, la première est sous surveillance des services de renseignement allemands en raison de ses liens avérés avec les frères musulmans. Quant à la deuxième, Ditib, qui gère près de la moitié des 2500 mosquées du pays, elle dépend directement de la Diyanet, la direction des affaires religieuses à Ankara, rattachée à la présidence turque.
Pendant des années, cela n'a pas posé de problème. Mais depuis l'arrivée au pouvoir d'Erdogan, Ditib est instrumentalisé politiquement.
Dans ce contexte, Rauf Celan estime qu'il est urgent de trouver un mode de financement qui permette de garantir l'indépendance des lieux de culte musulmans en Allemagne et des imams qui y officient, sans compter que les idées ne manquent pas.
Une solution consisterait à créer un impôt pour les mosquées sur le modèle de l'impôt qui est aujourd'hui prélevé auprès des chrétiens d'Allemagne pour financer l'Église. La deuxième possibilité serait d'augmenter les cotisations des fidèles. Une autre piste, enfin, consisterait à créer une fondation pour les mosquées qui serait subventionnée par l'État, comme le sont les églises catholiques et évangéliques, à qui Berlin verse chaque année 500 millions d'euros.
Mais la première étape, selon cet enseignant-chercheur, c'est de créer un espace de dialogue et d'échange au sein de la communauté musulmane.
Il n'y a aucune communication sur ces questions au sein des organisations musulmanes, donc on ne sait pas ce que veulent les fidèles. Il faudrait organiser des conférences, des ateliers dans les lieux de culte pour informer les fidèles de la problématique, discuter des solutions possibles et recueillir leur avis.
Pour parvenir à cet objectif, Rauf Celan compte sur les jeunes musulmans, conscients selon lui de l'intérêt d'un islam indépendant des influences étrangères et plus compatible avec leur mode de vie en Allemagne.
Et en Italie, la communauté musulmane est beaucoup plus restreinte, 1 million de personnes, et beaucoup plus récente, si bien que la lutte contre le radicalisme se pose de manière très différente.
Oui, en Italie, de nombreuses enquêtes contre le radicalisme islamique ont pu être menées grâce au travail précieux des imams qui collaborent avec la police. À Rome, les explications d'Olivier Bonnel.
C'est une collaboration fructueuse et plutôt inédite en Europe. Depuis plusieurs années, dans la péninsule italienne, une grande partie des signalements aux forces de police des cas de radicalisation est le fait d'imams ou de leurs adjoints. L'un des cas les plus emblématiques est celui d'un homme qui dénonça son propre fils parti en Syrie, un signalement qui permit au service des renseignements italiens de démanteler une filière djihadiste. En 2016, le pôle antiterroriste de Milan révélait que les imams des 123 mosquées de Lombardie étaient le meilleur outil de contrôle des éléments les plus extrémistes. De nombreux spécialistes de l'antiterrorisme, comme des sociologues des religions, l'affirment. Cette coopération fait de l'Italie un modèle plutôt singulier en Europe dans la lutte antiterroriste, à l'inverse d'autres pays comme la France, la Belgique ou encore le Royaume-Uni, où les communautés musulmanes vivent plus repliées sur elles-mêmes. S'il est néanmoins difficile de comparer l'Italie à des pays comme la France, en raison d'une population musulmane beaucoup moins importante et d'une sociologie de l'islam différente, un fait néanmoins demeure. À l'inverse de ses voisins, l'Italie n'a pas connu jusqu'ici d'attentats terroristes islamistes ayant fait des victimes.
Et la campagne pour les élections européennes de juin est influencée par cette nouvelle déflagration terroriste, Frédéric.
Impactée aussi par la guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien, si les candidats n'ont pas de mal à se positionner clairement sur le premier, le deuxième est beaucoup plus délicat. C'est l'œil européen cette semaine de Franceline Beretti.
En Europe, il y a ceux qui se positionnent radicalement dans cette guerre entre Israël et le Hamas. C'est le cas de la France insoumise. Le parti a désigné Rima Hassan, juriste en droit international, à la 7e place de sa liste. Elle a une grande chance d'être élue. La jeune femme est une réfugiée palestinienne, née dans un camp en Syrie, et elle ne fait pas l'unanimité. Ses opposants ont notamment fait circuler cet extrait d'interview.
Le Hamas mène une action légitime.
Vrai.
L'État d'Israël a un droit de défense.
Faux.
Cet exercice du vrai ou faux sur ce sujet n'a aucun sens. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, puisque Rima Hassan a été accusée d'antisémitisme. De son côté, elle déplore que sa position, développée dans un entretien d'une heure et demie, ait été réduite à 5 secondes de ping-pong manichéen. Toujours est-il qu'en la désignant sur sa liste aux européennes, LFI met délibérément le conflit israélo-palestinien au cœur de sa campagne électorale. La tête de liste, Manon Aubry, en a remis une couche il y a 2 semaines lors du débat entre partis.
Nous devons être le camp de la paix. Et c'est ça le cœur du débat que nous devons avoir aujourd'hui. Le camp de la paix en Ukraine, mais aussi à Gaza. D'ailleurs, je suis surprise que ça ne fasse pas partie des thèmes qui sont proposés à notre débat ce soir.
Au Parlement européen, LFI siège avec Die Linke, la gauche radicale allemande. Et en Allemagne, la sécurité d'Israël est prise très, très au sérieux. Mais les Palestiniens sont aussi les opprimés dans cette histoire. Bref, Die Linke est divisée, comme l'explique le journaliste Marvin Neumann.
C'est compliqué de mettre dans un même chapeau toutes les positions du parti sur la question ou de les résumer.
On tente quand même, grossièrement. Il y a les pro-israéliens et les pro-palestiniens.
Il y a aussi le courant neutre dans Die Linke.
Alors, je ne sais pas ce que c'est, le courant neutre sur le conflit israélo-palestinien. Disons qu'il y a de tout. Reste à espérer, pour l'harmonie de leur groupe à Bruxelles, que les futurs eurodéputés Die Linke seront sur la ligne de LFI. Chez les sociodémocrates aussi, c'est le grand écart. Entre la position résolument pro-israélienne affichée par le chancelier allemand Olaf Scholz et la chef du Parti démocrate italien, Elie Schlein, il y a un grand écart. Voici ce que disait Schlein quelques jours après le début des bombardements à Gaza.
Avec la même fermeté que celle du Parti démocrate pour condamner les attaques terroristes du 7 octobre du Hamas, nous demandons depuis le début à Israël le respect du droit international et du droit humanitaire.
Dans cette famille politique, on préfère donc ne pas s'attarder sur le sujet, comme l'a montré le Congrès de Rome début mars.
Les socialistes européens ont également promis de continuer à aider l'Ukraine, de promouvoir la paix au Proche-Orient et d'augmenter le budget de défense et de sécurité de l'Union européenne.
Les conservateurs du PPE n'en font pas non plus un argument de campagne. Ils ont bien une position qui s'est exprimée il y a 2 mois lors d'un vote au Parlement européen à Bruxelles.
Cet appel au cessez-le-feu est toutefois sorti de 2 conditions. Les otages israéliens doivent être libérés immédiatement et le Hamas démantelé à Gaza. Ces clauses ont été imposées par le Parti populaire européen. La droite européenne craint en effet qu'un arrêt des combats compromette les efforts d'Israël pour vaincre le mouvement islamiste palestinien, désigné comme une organisation terroriste par l'Union.
Depuis, on ne les entend pas beaucoup sur le sujet. Et au fond, c'est logique que la guerre à Gaza ne soit pas un des sujets de la campagne européenne. Diplomatiquement, l'Union reste un poids plume. Pendant longtemps, ses membres n'ont pas trouvé de position commune sur le sujet, même si le Conseil vient pour la première fois d'appeler Israël à une pause humanitaire immédiate et à ne pas lancer d'opération terrestre à Rafah. Ça, c'était jeudi dernier. Quoi qu'il en soit, l'Union européenne n'est pas en mesure d'imposer quoi que ce soit dans la région, où le Qatar, la Turquie ou l'Égypte ont bien plus d'influence que les 27.
L'Irlande du Nord, toujours hantée par la violence de la guerre civile, des troubles, comme on les appelle là-bas, 25 ans après la fin du conflit et les accords de paix du Vendredi Saint, les jeunes sont très nombreux à souffrir de dépression et de troubles mentaux, un traumatisme légué par leur famille. C'est le reportage à Belfast et Derry de Clémence Pénard.
On les appelle les bébés de la paix. Ils n'ont pas connu les attentats à la bombe et les affrontements violents, mais la période dite des troubles, qui a entraîné la mort de milliers de personnes, a laissé des cicatrices au sein de la société nord-irlandaise. Et la jeune génération semble profondément affectée. Ethan, 21 ans, est passé par plusieurs services psychiatriques durant son adolescence. Il explique avoir grandi avec des histoires sinistres que sa famille raconte encore aujourd'hui, des histoires qu'il tente d'oublier. Avec la drogue.
J'ai eu des problèmes avec la drogue, avec l'alcool, j'ai pris des ecstasies, LSD, MDMA. Encore aujourd'hui, j'essaie de vaincre mon addiction à la cocaïne. Parfois, je veux oublier certaines choses.
Malgré ses problèmes d'addiction et un passé judiciaire, Ethan participe en ce moment à un programme de développement personnel pour les jeunes créé par le Fonds international pour l'Irlande. Un programme grâce auquel Ethan a aujourd'hui trouvé un emploi au service service de propreté de la ville.
Je suis plus motivé en ce moment. Je suis plus heureux. Bon, j'ai eu des hauts et des bas. J'ai été déprimé. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Mais je crois que là, j'apprends à gérer mes démons.
Dernière basket à la mode au pied. John, qui fêtera bientôt lui aussi ses 21 ans, a également participé à ce même programme il y a quelques années et travaille désormais lui-même pour l'association qui le met en œuvre. Il a grandi dans le quartier difficile de Shankill, au nord-ouest de Belfast. D'après John, il a en quelque sorte hérité de son mal-être. Il est malheureusement loin d'être le seul.
Sans le soutien que j'ai reçu, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. À une époque, j'avais l'impression que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. J'ai beaucoup souffert. Je me posais vraiment la question, oui ou non. Et j'ai de la chance. J'ai surmonté ça. Mais malheureusement, au cours des 4 dernières années, j'ai perdu 7 de mes amis qui se sont suicidés. Certains d'entre eux buvaient, se droguaient. D'autres avaient du mal à rester trop longtemps dans leur propre tête. Le suicide, je pense que c'est l'une des plus grandes causes de mortalité chez les jeunes hommes en Irlande du Nord. Les grands garçons, ça ne pleure pas, soi-disant. Mais je pense que les jeunes hommes ont plus que jamais besoin de parler et de ne pas cacher leurs sentiments, car c'est une situation très, très sérieuse.
Nous nous rendons au PIPS de Belfast, le nom d'une organisation pour la prévention du suicide et de l'automutilation. Martina McIlkenny en est la responsable. Pour elle, le manque de moyens psy en Irlande du Nord est catastrophique.
La personne la plus jeune à avoir franchi nos portes n'avait que 4 ans. Je dirais qu'à cause du Covid, nous avons quadruplé le nombre de jeunes qui nous demandent de l'aide. Et sans financement, c'est très difficile. Nous avons constaté chez de nombreux jeunes un traumatisme transgénérationnel. Je veux dire des enfants dont les parents, voire même les grands-parents, ont été impliqués dans les troubles d'une façon ou d'une autre. En 1998, avec l'accord du Vendredi Saint, il y a eu un cessez-le-feu, c'était la fin de la guerre. Le nombre total de décès pendant les troubles s'élève à 3500, mais depuis cet accord jusqu'à aujourd'hui, le nombre de personnes décédées par suicide est de 4800.
Des chiffres assez révélateurs. Il y a eu plus de morts par suicide après les troubles que pendant cette période sanglante. En Irlande du Nord, la santé mentale est donc devenue un enjeu crucial. L'Irlande du Nord est aujourd'hui impactée par le legs politique et social des années de guerre civile, mais aussi par son retard économique. Si l'économie s'améliore et que l'Irlande du Nord se transforme, elle reste néanmoins la région la plus pauvre du Royaume-Uni. Le cas le plus frappant est Derry, la deuxième plus grande ville après Belfast, là où a eu lieu le tristement célèbre Bloody Sunday. C'est aujourd'hui la ville où les taux de suicide par noyade dans la rivière font l'objet d'une prévention. Martina McIlkenny à nouveau.
I'm from Derry myself.
Je viens moi-même de Derry et je suis malheureusement très consciente des suicides à Derry, pas seulement dans la rivière Foyle. J'ai perdu des membres de ma famille, 2 dans la rivière. Derry est une toute petite ville, mais c'est une ville difficile. Il y a beaucoup de chômage et pas assez de ressources pour s'occuper des gens. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous y avons aussi ouvert un bureau.
Il s'agit beaucoup plus souvent de jeunes garçons et non de jeunes filles. Steve McCrudden travaille à Derry pour une association d'aide contre la dépression. La raison, selon lui, réside dans le fait que les hommes ont encore du mal à demander de l'aide. Ce serait toujours ancré dans la culture, une sorte de tabou de parler de ses problèmes mentaux en tant qu'homme.
On a constaté que 80% de personnes pensent qu'il y a une évolution sur la perception de la santé mentale. Cependant, 50% des hommes interrogés dans l'enquête ont déclaré qu'ils rencontraient des difficultés à parler de leurs émotions et sentiments, contre 40% des femmes. Je pense que parfois, les hommes perçoivent la détresse psychologique comme une faiblesse. Et c'est seulement lorsqu'ils sont en crise qu'ils demandent de l'aide.
L'égalité homme-femme dans la prise en charge de la santé mentale, c'est un des autres défis que devra gérer l'Irlande du Nord en temps de paix.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur l'application Pure Radio. L'information continue sur RFI.